Et bonsoir, vous êtes bien sur la courte échelle comme tous les dimanches à 19h30. Donc ce soir nous sommes nombreux dans le studio. Donc déjà je vais rappeler l'adresse, donc vous êtes bien à la courte échelle, Friche, la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille, si vous voulez réagir sur le sujet de ce soir qui va se dérouler dans l'émission avec le collectif de soutien de Gino. Donc vous pouvez réagir aussi en direct à l'émission au 04 91 08 28 10. Et ce soir, nous avons dans le studio Liliane.
Salut.
Il y a Cille.
Coucou.
Il y a Louise.
Coucou.
Il y a Charlie.
Salut.
Salut, pardon. Et Vivi et le groupe de soutien, le collectif qui
collectif
est avec nous.
Entier, ce soir.
Avec nous. Voilà, une bonne partie du collectif du soutien pour le collectif de Gino. Donc ce soir, ça va être le témoignage.
Oui, on va un peu revenir sur le cas de Gino, dont le résultat de l'audience aura lieu le 15, donc cette semaine, mercredi, je crois, c'est le 15.
Oui.
Mais aussi un petit peu sur le reste des inculpés de Budapest et sur ce qui se passe à Marseille pour soutenir ces personnes-là.
Est-ce que déjà, peut-être, vous pouvez un peu rappeler c'est quoi les faits, c'est qui Gino, qu'est-ce qui s'est passé un peu, enfin je sais pas. Bienvenue déjà dans l'émission, déjà. Ça fait plaisir de vous accueillir.
Salut à toutes et tous, merci de l'invitation déjà. Et alors, qui c'est Gino? Déjà son nom c'est Regino, c'est un camarade italien sans citoyenneté. Dans le sens que Gino, il a vécu toute sa vie en Italie, mais il n'est pas italien pour autant. Il a des nationalités albanaises. Et c'est un camarade qui a été arrêté le 12 novembre à Paris et qui est actuellement détenu à la prison de Fresnes suite à un mandat d'arrêt européen qui a été demandé par l'Hongrie d'Orban. Sur les faits, c'est le fameux affaire Budapest, sur le fait qui se sont passés en février 2023, pendant la journée de l'honneur. Qu'est-ce que c'est si vous voulez, je détaille un peu ce que c'est la journée de l'honneur. La journée de l'honneur, c'est un rassemblement néo-nazi qui commémore en journée de 1945 quand l'armée rouge essayait de rentrer dans Budapest et les nazis ont fait résistance et finalement ils ont perdu, mais après ceux qui sont survécus, ils ont après rejoint les autres forces nazies sur le front, etc. Et depuis plusieurs années, les néo-nazis de toute l'Europe se retrouvent en février à Budapest pour commémorer cette journée et commémorer leur ancêtre, quoi. Et depuis quelques années, il y a aussi des contre-manifestations qui s'organisent à cette journée-là. Et
ouais, donc ouais, déjà ça pose un peu les bases on parle d'antifa qui sont allés protester contre le plus gros rassemblement néo-nazi d'Europe, voilà, c'est déjà c'est de ça qu'on parle.
Voilà, oui. Et du coup en février 2023, du coup il y a eu la journée de l'honneur, des contre-manifestations, et en marge de tout ça il y a eu des affrontements entre camarades et néo-nazis. On va pas détailler ça on laisse ça aux juges et aux magistrats, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ça, il y a eu des arrestations en flagrant, notamment Ilaria, Salis et Toby. Et il y a on n'est pas sûr sur le nombre, quoi, mais il y a un tas de mandats d'arrêt européens qui ont été livrés par l'Hongrie.
Moi, sur les articles que je lisais, c'était quelque chose comme une vingtaine, je crois.
Oui, entre 15 et 20. Et du coup, il y a eu l'arrestation d'Ilaria et Toby tout de suite. Et après, il y a eu l'arrestation en Italie de Gabriele, sur lequel voilà, il y a eu une décision de la justice italienne sur le mandat d'arrêt européen. Et la justice italienne, étonnamment, a refusé l'extradition de Gabriele. Et maintenant, après, on va détailler le pourquoi. Et maintenant, l'arrestation de Gino. Et après, il y a, voilà, si on enlève 4 personnes, ils étaient en vingtaine, on a, on imagine, à peu près une quinzaine de camarades en cavale. Du coup, pour détailler un peu sur les 4 personnes qui, juste là, ont été arrêtées, Ilaria a été arrêtée tout de suite en février 2023. Et il a passé 15 mois en prison en Hongrie. L'affaire, à un moment, a éclaté en Italie. C'est venu aux infos, à la une des journaux, etc., pour ses conditions de détention.
Ouais, c'est peut-être des images que vous avez vues d'ailleurs. Il y a des images d'elle menottée et en laisse à son jugement.
Voilà.
Qui ont évidemment choqué.
Et ça a été le déclenchement d'une grosse campagne de solidarité en Italie. Aussi grâce à, par exemple, le soutien de Zero Calcare, qui pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un BDiste, ça,
oui,
c'est ça?
Un dessinateur de BD.
Un dessinateur de BD, camarade, qui a du coup fait un BD qui était au début publié sur une revue très fameuse en Italie, internationale. Et après, ils ont fait un bouquin qui est soutien aux inculpés de l'affaire Budapest. Et du coup, voilà, il y a eu tout un gros soutien autour de Ilaria, avec des manifestations, etc. Et Ilaria, au bout de 15 mois de prison, elle est sortie. C'est un peu. Ilaria est sortie de prison grâce à son élection au Parlement européen. Ce qui est arrivé, c'est qu'un parti lui a proposé de se candidater aux élections européennes pour la sortir de prison, pratiquement. Et effectivement, le mouvement de solidarité autour d'elle et la médiatisation du cas a fait que 150 000 personnes ont voté aux élections européennes pour Ilaria Salis. Elle a été élue et grâce à l'immunité parlementaire, elle a pu sortir des prisons.
Une fois n'est pas coutume, il y a une élection qui a servi à quelque chose.
Voilà, voilà, c'est exactement ce qu'on pense. Et après, il y a eu Toby, qui par contre, il a été arrêté avec Ilaria, mais qui a négocié en peine et il est encore en prison. Et là, il attend de rentrer en Allemagne et où il risque de se couper encore de la tôle pour d'autres faits. Et après, voilà, il y a le fameux mandat d'arrêt européen, il y a Gabriele, pour lequel l'Italie a refusé l'extradition, notamment argumentant les conditions de détention hongrois, et maintenant Gino.
Ce que tu disais, c'était que c'était un peu étonnant que, enfin, presque un coup de chance que le proc est pas, contrairement à Gino, le proc pour le cas de Gabriele n'est pas requis l'extradition immédiate.
Oui, voilà. La grosse question, je ne sais pas si vous voulez, on arrive à la défense de Gino et voilà, comme ça, entre-temps, on parle aussi de Gabriele. La grosse question, les arguments de défense, que la défense, les avocats, quoi, ils mènent, et que aussi, en certaine, parce que autour de l'affaire Gino, il faut dire que ça s'est créé en campagne assez large. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu, là aussi, bizarre à dire, mais il y a eu aussi un communiqué de presse de la France Insoumise. Il y a des prises de position larges. Il y a eu en tribune avec 300 signataires sur le nouvel OBS. Il y a une mobilisation large qui s'est faite. Les arguments sont des arguments qui sont connus, pas au grand public, mais à ceux qui connaissent un peu les conditions de détention hongrois, sont bien connus dans le sens que l'Hongrie est sombre de plus en plus dans le fascisme. C'est Orban même qui parle de démocratie illibérale. Et dans cette démocratie illibérale, autre qu'un certain contrôle de la justice, de la part du gouvernement, il y a des conditions de détention très dures qu'on connaît déjà nous directement dans l'affaire Budapest grâce à Ilaria qui a passé 15 mois en tôle et qui maintenant ne l'arrête pas de nous raconter qu'est-ce qu'elle a vécu dans les prisons hongroises. des lettres. Ah, parce que voilà, j'ai oublié, un gros oubli, et je m'excuse, parce qu'il y a Maya qui est en prison en Hongrie en ce moment et qui a été arrêtée en Allemagne et a été extradée. Même s'il y avait une décision de la cour d'appel contraire à son extradition, avant que la décision arrive dans la nuit, elle a été extradée en tout secret par les forces de police allemandes et qui maintenant est en Allemagne et qui vit des conditions de détention très dures. Maya, c'est un personnage non binaire, du coup avec un risque, avec une certitude de discrimination encore plus forte, surtout dans des prisons d'un état fasciste. Et du coup, voilà, ce qui est des arguments du comité Libéré Gino national, quoi, on va dire, et de la défense juridique, c'est d'un côté les conditions de détention, avec, il y a eu récemment un report, un dossier du Conseil d'Europe, qui pointe aux conditions, aux traitements inhumains et dégradants, non, utilisant le langage de droit de l'homme, quoi, avec un risque de torture pratiquement, quoi.
Oui, par exemple, enfin, en complément de cette émission, il y a aussi le podcast qui a été fait par sur le site de La Parole Errante, Squat à Montreuil, que on vous invite aussi à écouter, qui est intéressant, qui est trouvable sur Internet pour les personnes qui ont accès à Internet à l'extérieur, et qui revient un peu sur ça et où Ilaria raconte un peu les conditions dans lesquelles elle s'est retrouvée enfermée en Hongrie.
Oui, oui. Et après, l'autre gros argument de la défense, c'est la question du procès, des garanties dans le procès, dans le sens que la présomption d'innocence qui, dans les États libéraux, devrait être en principe garantie à tout le monde, là, c'est absolument pas le cas. Il y a des déclarations, on compte au moins une vingtaine de déclarations de la part de membres du gouvernement hongrois envers les militants antifascistes qui disent ces terroristes, on vient vous chercher, on vous foutra en taule, vous êtes des terroristes communistes, blablabla. Bla, bla.
Peut-être, genre, rappeler la présomption d'innocence, c'est quoi c'est...
Ben, la présomption d'innocence, c'est que s'il n'y a pas eu un procès et les preuves n'ont pas été présentées des preuves et il n'y a pas eu une décision de la justice, normalement, jusqu'à condamnation, tu es innocent, quoi. C'est pas nous qu'on l'a décidé, c'est les règles.
Tu es innocent tant que le jugement n'est pas définitif, soit même en appel, même s'il a été jugé en première instance, qu'ils font appel. Eh bien, il y a la présomption d'innocence jusqu'à l'appel, jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Voilà. Après, déjà, ça, c'est les arguments juridiques. Mm. Nous, ce qu'on discute là, ce n'est pas tant ça. Déjà, nous, en tant que comité Libéré Gino, en général, en tant qu'antifasciste qui défend les accusés antifascistes, on n'est pas là à démontrer l'innocence de nos camarades. Déjà, ça...
Taper des nazis, c'est pas si grave.
Voilà, je veux dire, s'ils sont innocents, bien, s'ils sont coupables, bien aussi, quoi, on sera en soutien avec eux. La question, du coup, c'est pas démontrer leur innocence, mais la logique politique du procès. Le fait qu'ils sont considérés déjà coupables et qu'ils risquent de couper des peines de prison très, très lourdes. Sur Ilaria, il y avait des peines qui allaient jusqu'à 20 ans de prison. Sur Gino, il y a le risque de peine qui vont jusqu'à 16 ans de prison. Et c'est clairement disproportionné par rapport au fait, même au fait reproché. Pour 5 jours, tu as eu un bagarre, il y a 5 jours d'ITT sur la personne qui t'a tapé. En aucun pays européen, tu risques 20 ans de prison, quoi.
Oui,
du coup, voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, de mettre alors, à l'attention du grand public, de l'opinion publique. Je sais qu'on essaie d'argumenter et de dire pour dire là, la question, c'est pas si Gino il a rien fait, c'est un petit ange qui jamais il toucherait à un nazi, quoi. La question, c'est déjà, bon, de ce qu'ils disent les avocats, les preuves.
Oui, c'est clair que stratégiquement, mettre en avant le fait que les preuves ne sont pas solides,
voilà.
Ça se tient quoi, pour
voilà.
Le soutenir lui. Quoi.
Les preuves ne sont pas solides, ni Gino, ni Ilaria, ni personne ne s'est jamais dit coupable, ils ont nié les faits. Mais même les faits qui sont reprochés, voilà, il y a des preuves très faibles, et par rapport aux faits, les peines sont clairement disproportionnées. Si à ça tu rajoutes voilà, les conditions de détention, etc., etc., on comprend pourquoi c'est important de mener cette campagne. Bah, c'est toujours important de libérer qui que ce soit de prison. Hein. Je suis pas en train de. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on est capable en ce moment de construire une campagne si large, où il y a aussi des intellectuels qui s'unissent à nous, etc. Au vu de l'évidence. De la politicité de cette procès quoi.
C'est clair. C'est vrai que on est vraiment sur un cas où c'est des nazis qui sont attaqués. c'est une question de coup porté par rapport à la violence des. Enfin, c'est la hauteur des peines est beaucoup trop grosse et il y a pas de preuves solides et bon il y a vraiment clairement la justice hongroise, on sent vraiment qu'elle est comme ce que c'est la justice, un outil dans les mains du pouvoir hongrois et que c'est sûr que on n'en est pas encore là en France et que on peut pas comparer les deux, mais quand même on peut se dire que
ça se rejoint,
qu'on peut réfléchir à la continuité qu'il peut y avoir, oui. En France aussi la justice c'est un outil du pouvoir, les personnes qui sont en prison en France elles sont majoritairement des personnes qui subissent des oppressions, qui sont pauvres. Et c'est bien de voir qu'il y a une continuité. Et c'est intéressant, comme on le disait depuis tout à l'heure, que de rappeler qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Et que là, vraiment, on est sur le basculement fascisme, ça amène à pousser le truc beaucoup plus loin et des trucs beaucoup plus dangereuses. Et ce qui est inquiétant, c'est que la France n'est pas immédiatement refusé cette extradition. Finalement, ça montre que.
Voilà. Tout à l'heure on parlait, oui, voilà. Tout à l'heure on parlait de Gabriel et du refus de l'Italie de son extradition. Dans le cas de Gabriel, il avait le procureur qui lui-même, autre que la défense, pointait des conditions de détention inhumaines, etc., qui pointait la disproportion de peine, etc. En France, ça n'a pas été le cas. C'est un peu aussi le signe du climat politique en ce moment en France, quoi, je dirais.
C'est certain.
Et parce que à la première audience, non, ça n'a pas été la première, deuxième audience, quoi. Parce que la première audience, c'est seulement le moment où la personne accusée dise s'il veut bien être extradé. Car Mangino lui a dit non, quoi. Et, la deuxième audience, c'est là où se sont posées les questions de la procure et de la défense, quoi, à la cour d'appel de Paris. Et c'est à ce moment-là que le procureur français il a demandé clairement l'extradition immédiate de Gino. Là, le 15, du coup, on attend la réponse des juges sur soit l'extradition immédiate, soit ils acceptent, ils accueillent les requêtes de la défense, qui c'est du coup voilà, toute une série d'intégrations au dossier, qui prennent en compte toutes les conditions de détention en Hongrie, avec tout un argumentaire qui est désormais au niveau européen, dans les équipes d'avocats qui ont suivi l'affaire Budapest et dans les mouvements de solidarité pour les accusés de Budapest, c'est assez clair et qui utilise aussi des pièces institutionnelles, quoi, des dossiers du Conseil d'Europe ou et tout ça, quoi. Mais du coup, voilà. En France, en ce moment, bizarrement, on voit, bizarrement, je ne sais pas à quel point bizarrement, mais on voit un certain soutien à l'action, à la requête hongroise de la part du procureur. Et c'est pour ça que c'est en train de se monter une grosse mobilisation pour dire, bon, est-ce que la vague d'extrême droite qui est en train de toucher l'Europe... ça fait sauter toutes les garanties que les États libéraux avaient mis en place auparavant, quoi. Je veux dire, moi je ne suis pas un gros fan de l'ordre libéral, mais il faut dire que là, ce qui est en train de passer en Hongrie, c'est extrêmement grave. et les risques pour les camarades qui se sont mobilisés à cette journée sont immenses, quoi. J'ai 20 ans de prison pour un bagarre de rue, si c'est démontré. C'est énorme.
En vrai, c'est vrai que c'est effrayant, mais il y a ce truc dont tu parlais. En fait, c'est que ça a pris une dimension. Ils ont donné, le gouvernement roi a donné une dimension internationale à ça, avec une espèce de monter l'affaire comme étant un complot international.
Oui.
Terroriste. Et qui, du coup, justifie les peines. Dans
oui,
le sens.
Oui, il y a eu des références à l'Hammerband, de la bande du marteau allemand, qui en plus l'Hammerband en soi-même, c'est un montage des journalistes. Quoi. Oui, c'est...
Pour faire peur autour d'un groupe antifasciste, c'est un peu une création.
Oui, mais c'est comme quand on a les associations de malfaiteurs sur des affaires politiques ici en France ou en Italie. Quoi. Ils ont monté un gros cas. C'est qu'en même temps nous montre la direction de l'Europe, mais nous donne aussi l'occasion de construire un gros campagne.
C'est clair que en vrai la France elle peut refuser l'extradition, genre c'est possible. L'Italie l'a fait, ça montre que ça c'est possible.
Oui, non, mais en France en plus. Ouais.
Mmh. Oui, c'est jouable de faire une campagne pour, comme tu disais, visualiser le fait et faire en sorte de mettre une pression médiatique pour que derrière ça se sache et que la France n'ose pas le faire. Ce serait
oui,
bien, quoi.
Oui. Non, mais en plus, la France, elle a déjà refusé des extraditions dans le passé, même récent, quoi. Il y avait le cas Vecchi qui devait aller en prison en Italie pour les faits de Genova 2001. Toutes les questions des brigadistes, des brigades rouges des années 70, la lutte armée des années 70, sur lesquelles la France a refusé. Je veux dire, on a aussi des bons antécédents, si tu veux. Où on a... Mais là, le climat fait peur, on va dire.
C'est clair.
Et est-ce que vous avez des dates de mouvement qui est programmé où on peut lancer des dates de mouvement que vous avez pour ce soutien?
En ces derniers jours, il y a eu déjà des mobilisations un peu partout avec des déploiements de banderoles devant les palais de justice, etc. Le 15, il y aura l'audience à la cour d'appel de Paris. Et les 18, toujours à Paris, à la Parole Errante, il y aura une grosse journée de soutien pour Gino. Dans la journée, il y aura la présence de Zero Calcare qui va présenter la BD Cette nuit ne sera pas bref, qui doit encore sortir en français, mais bon, là, c'est un BD soutien qui raconte l'effet de Budapest. Et dans cette journée de soutien, il y aura aussi Ilaria Salis qui nous racontera un peu ce qui a passé en prison. Et le soir, il y aura une grosse soirée de soutien, parce que voilà, ça, vous verrez bientôt aussi à Marseille des soirées soutien, des QR codes pour la récolte de fonds. Parce que voilà, tout ça, ça coûte très cher, même pour les parents de Gino d'aller à Paris. Ça coûte cher. Voilà, les dépenses autour de cette affaire sont énormes et du coup, bientôt, on commencera à récolter des fonds d'ici aussi.
Donc, vous avez déjà des dates prévues sur Marseille, sur d'autres villes?
Pas encore.
Non
sur Paris, oui. Sur Paris, le 18, voilà. À la parole
errante.
Voilà. C'est le 15, il y a l'audience à la cour d'appel de Paris et le 18, la journée de soutien à la parole errante. Et sur Marseille, on vous tiendra au courant. Quoi.
Et puis, ça rappelle pour les personnes à l'intérieur, comme on l'avait fait l'année dernière pendant la grève de la faim d'Alfredo Cospito, la BD de Zero Calcare sur le sujet était gratuite pour les personnes à l'intérieur. Bah, c'est encore le cas. Si des personnes nous demandent par lettre de recevoir la BD de Zero Calcare sur ce sujet, on vous l'envoie, bien sûr.
Bien sûr, évidemment. Et également, vous serez invité à l'émission parce que c'est un sujet qu'il faut encore éclaircir. Très intéressant.
Merci beaucoup. Donc, merci pour les
pas pour
inculpés,
dimanche
quoi.
Prochain, mais pour le dimanche après, si vous êtes disponible. Mais voilà.
Peut-être, peut-être on peut revenir sur. Juste, du coup, dire. En fait, on l'a pas vraiment dit. C'est quoi votre collectif?
Voilà, le collectif de soutien.
Du coup, on a...
De préciser.
Ça se capte, mais peut-être juste... Si vous voulez dire deux, trois mots sur ça.
Oui, non, mais vite fait, après l'arrestation de Gino, c'est clairement ses amis et camarades qui ont eu l'info de son arrestation, ses amis sur Paris et ses amis sur Milan, où lui il a milité longtemps. Et du coup, il y a eu la mobilisation des amis et camarades de Gino. Moi, je suis proche de ses amis et camarades, et du coup, comme tant d'autres, je me suis activé. Et ici, sur Marseille, après, on a trouvé le soutien des collectifs antifascistes locaux, la riposte antifasciste et l'Antifa Social Club. Et à partir de là, on a créé le comité Libéré Gino sur Marseille, qui travaille avec les camarades de Paris, les camarades de Milan, Ilaria Salis et tout le monde quoi, pour libérer Gino par tous les moyens.
Quoi. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus pour en parler.
Merci
dans
beaucoup.
La radio déjà. Et en tout cas, tenez-nous informés. Et force et courage à Gino et à tous ceux qui sont enfermés et qui vivent de ces conditions-là. Et comme l'émission dit, la courte échelle, c'est pour tous les prisonniers, pour les prisonnières. Qui sont enfermés des abus de pouvoir et on est là pour les dénoncer, faire des manifs, tout ce qui est de soutien. Donc, voilà.
Et on était un peu stressés ce soir par le temps, puisque voilà. Ce dimanche-là, normalement, c'est sur le fil qui prend la suite de l'émission et de l'antenne, parce que c'est le deuxième dimanche soir du mois. Mais là, pour l'instant, ils ne sont pas là, donc peut-être si on veut encore déblatérer un peu et revenir sur deux, trois trucs, en attendant qu'ils surviennent, je pense qu'on peut continuer, l'antenne est à nous encore.
Et bien voilà, à propos de Tézan, le collectif là.
Par exemple, moi voilà. Je trouve ça intéressant de revenir sur un fait qui est que Gino a été arrêté par la SDAT, donc à savoir sous-département antiterroriste, enfin le SD, je sais plus ce que c'est, mais c'est l'antiterro quoi. Et du coup, il y a un article du Mediapart qui est assez complet sur toute cette affaire que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse, et Mediapart a interrogé le président de la SDAT, qui dit oui, c'est normal, nous on a des compétences pour s'occuper de l'ultra-gauche, donc c'est nous qui avons fait ça. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un palier qui est franchi par rapport à l'année dernière, par exemple l'année dernière, et les années d'avant, ça va un petit moment que cette affaire existe, mais il y avait l'affaire du 8-12, des inculpés du 8 décembre, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est un dossier énorme qui avait été monté par par l'antiterro sur des militants d'extrême gauche, où ils avaient inventé un groupuscule un peu de toutes pièces qui prévoirait de faire des attentats. Et vraiment, il y avait rien de concret, mais les personnes ont quand même été enfermées, et ça permettait à ce que... C'est difficile de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils se sont plantés, ou est-ce qu'ils avaient la volonté qu'on parle de terrorisme d'ultra-gauche et que cette affaire existe pour dire qu'il y a des procès qui existent sur des terroristes d'ultra-gauche. Toujours est-il que ça a donné à manger à l'antiterro qui savait pas trop quoi faire d'autre. Mais c'était encore... Il y avait encore l'idée de faire comme si s'il y avait vraiment des attentats prévus. Alors que là, c'est même pas le cas. Là, c'est assumé que c'est le même département de policier qui s'occupe de l'ultra-gauche, du terrorisme, sans qu'il y ait d'attentats prévus par les personnes.
Non, d'ailleurs, en Europe, si on doit parler de violence politique à l'échelle de l'attentat, c'est surtout l'extrême droite en ce moment qui s'organise à ce niveau-là. Je veux dire, et ça montre bien l'ambiance, quoi. Ça montre bien l'ambiance en France. Et en plus, c'est des choses qui communiquent, sont utiles au pouvoir pour communiquer un message. Je ne sais pas si tu fais arrêter quelqu'un par l'antiterrorisme, la personne de la rue pense qu'effectivement il y a quelque chose là derrière, quoi. Si tu dis que quelqu'un a été arrêté par l'antiterrorisme, c'est sûr que dans l'opinion publique, ça passe un message.
Oui, c'est clair. Moi, tu me dis terrorisme, je me dis attentat pour une cause idéologique. C'est pas forcément la meilleure stratégie, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans la bouche médiatique et dans la bouche des ministres, c'est vraiment une manière de discréditer n'importe quel discours dramatiser la situation.
Après, s'il n'y aura pas d'extradition, est-ce que tu penses qu'il sera donné autant d'importance à cette info? Déjà, tu as eu l'info que quelqu'un a été arrêté par l'antiterrorisme, que c'était des antifascistes, mais après le fait qu'il soit relâché, il ne va pas être relayé non plus. Là, heureusement, il y a un peu les médias indépendants, alternatifs en France qui se sont mobilisés. Il y a Blast qui a fait une vidéo là-dessus, où il y a Ria qui parle, il y a Mediapart, il y a La Parole Errante qui vient de faire un podcast. Voilà, il y a Street Press aussi, je crois, a fait un article. Il y a la tribune sur le Nouvel Obs, mais sinon en général, si on parle de ces choses-là seulement quand il y a des arrestations. Et ça sert à dire, parce que là la question c'est pas, la question pour nous c'est pas l'innocence ou la culpabilité, mais pour la contrepartie non plus, quoi. De l'autre côté, la question c'est donner l'impression qu'il y a des dangereux antifascistes, et qu'aujourd'hui le danger c'est l'antifascisme.
C'est clair.
En Italie, c'est la première fois depuis la guerre qu'on a un gouvernement fasciste en Europe. Il faut le rappeler. Et en ce moment, on commence à en voir les effets. Après 2 ans, si au début, je ne sais pas comment dire, en Italie, on a été gouverné par tout et n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, après 2 ans de gouvernement Meloni, on voit clairement comment on plonge dans le fascisme. Et la France, elle n'est pas loin.
Pas loin de subir le même sort, on n'espère pas. Mais...
Je ne sais pas, oui, mais rien qu'il est allié aux internes,
oui, c'est clair.
Ça donne l'ambiance, quoi.
Et sinon, tu disais, parce que la revue d'extradition, c'est... une petite victoire, mais il y a quand même un coup, quoi, par exemple, pour Gabriele.
La question, il y a toute la question de mandat d'arrêt européen et de comment ça crée des situations qui sont nouvelles. Voilà, il y a des équipes d'avocats qui, sur ça, ils sont en train de bosser parce que c'est des situations nouvelles. Le mandat d'arrêt européen, il est né au début des années 2000. Et c'est clairement un outil qui a été créé pour faciliter la tâche aux institutions répressives. Du coup, pour permettre des procédures d'extradition facilitées, je ne sais pas comment dire, simplifiées, voilà. Et seulement que là, du coup, là où ça se pose la question qu'en extradition, même avec mandat d'arrêt européen, est refusée, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore, ou au moins, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, Gabriele, son extradition vers l'Hongrie a été refusée, mais du coup, Gabriele, sa position en ce moment, c'est qu'il ne peut pas sortir d'Europe, et d'Italie. Parce que s'il sort d'Italie et, par exemple, il vient faire un voyage à trouver ses amis en France, en faisant un exemple à la con, quoi, il risque d'être arrêté en France et que la procédure d'extradition soit relancée par la France. Même chose pour tous les autres pays européens. Et c'est à peu près ce qui... déjà, on espère que l'extradition soit refusée, mais demain, l'extradition de Gino est refusée. Qu'est-ce qui se passe? En plus, Gino n'est pas européenne. Je rappelle ça, c'est une chose importante. Je ne veux pas m'étaler plus sur ça, mais tenons ça en tête pour le futur. Suivons l'affaire Gino, parce que... il y a une certaine vulnérabilité de sa position, quoi, en n'étant pas européenne, ou au moins, c'est un italien sans papier, quoi, un italien sans citoyenneté. Et voilà, c'est tout à découvrir. Il y a des avocats qui s'occupent de ça. Mais on ne sait pas vraiment...
Qu'est-ce qui va devenir après, quoi.
Oui, non, mais je veux dire, Gabriele, est-ce qu'il ne pourra pas sortir d'Italie pour toute sa vie, quoi? Parce que n'importe où il va, il risquera d'être renvoyé en Hongrie. Qu'est-ce qui va se passer? Ilaria, par exemple, Ilaria aussi, maintenant, l'Hongrie a demandé de retirer son immunité parlementaire. Non, parce que, il y a des camarades, je sais, qui critiquent le fait qu'Ilaria... Elle se soit fait élire au Parlement européen, mais en vérité, il faut rappeler le fait qu'Ilaria, elle n'est pas en sécurité, quoi. Ilaria, elle pourrait demain voir son procès aboutir et à nouveau se retrouver face à un mandat d'arrêt européen avec un peine de prison qui va jusqu'à 20 ans. Voilà. C'est une chose. Voilà. Du coup, j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent à penser que c'est voilà, la BD de Zéro Calcaire nous pose un peu l'ambiance. Le titre, c'est Cette nuit ne sera pas bref. Voilà. Et ça, c'est un peu vraiment le leitmotiv d'entre nous, quoi, quand on réfléchit à la défense des antifascistes, de l'affaire Budapest, et en général, les moments historiques qu'on vit en Europe, c'est un peu ça. On est dans un moment sombre et ça va pas se terminer demain matin. Quoi.
C'est clair que ce qu'on disait, on est limite parfois, genre, que ce soit par le vote ou par le fait de défendre le fait qu'il n'y a pas assez de preuves, alors qu'il y a des preuves ou pas, qu'il ait tapé des nazis.
Oui, voilà. Oui, oui.
C'est, on est obligé à ce moment-là de passer par des stratégies un peu réformistes et légalistes parce que. Parce que le fascisme nous laisse que ça et que s'il grossit, bon, je dis pas qu'il faut investir forcément énormément ces outils, on peut les investir quand il passe et que c'est efficace. Par exemple, voter pour Hilaria, c'était pas très coûteux, mais que, enfin, là c'est un avis qui engage plutôt que moi, mais que ça empêche pas à côté de continuer à être plus radical et de penser que il faut pas que les antifas aillent en prison, faut que personne aille en prison, mais que c'est quand même pire une situation comme la Hongrie où il n'y a plus aucune barrière, où il n'y a plus aucun contre-pouvoir.
Oui, oui, moi, pour exemple, je suis allé à... J'étais invité à Bruxelles, voilà, par les camarades par Hilaria et ses camarades, parce qu'ils avaient organisé une grosse journée sur l'affaire Budapest. Et je veux dire, s'il y a un moment qui a été très important dans cette rencontre, c'était... Le moment où ils ont parlé les grands-parents de Maya et le père de Maya, etc. Et il y a un appel à l'aide, quoi, vraiment, parce que quand on lit les lettres de Maya depuis la prison, on sent l'urgence de se mobiliser et de faire quelque chose, même si, voilà, aujourd'hui, en étant Maya en prison en Hongrie, on ne sait pas trop quels outils seront les bons pour la sortir de là. Et voilà, moi pour Gino, comme ça a été pour Hilaria, pour Gino je suis de la même opinion, les sortir de là par tous les moyens, je ne sais pas comment dire, si on... et je pense que tous les antifascistes ils devraient réfléchir comme ça en ces moments, si on mène en lutte ensemble, après on s'occupe de libérer les nôtres, quoi. Voilà, on voudrait libérer tout le monde, quoi, c'est clair, on voudrait en finir avec la prison, mais sûrement quand on s'engage dans une lutte politique, on n'abandonne pas les nôtres en prison, quoi. Il y a Hilaria qui souvent elle cite un slogan qui vient de la lutte notable en Italie, de la lutte contre les trains à haute vélocité, que c'est on part et on revient ensemble, quoi. Et ça c'est un message important que c'est à passer quand on s'engage dans des luttes antifascistes. Après on lâche pas quelqu'un dans les mains de l'État, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi je pense que je voulais aussi souligner le fait que bah, là du coup Maya c'est une personne non binaire qui est enfermée en Hongrie et je voulais rappeler aussi que le gouvernement d'Orban c'est un gouvernement hardcore sur les droits trans et tout et donc c'est en France c'est déjà hardcore et dans plein de pays c'est déjà hardcore mais là avec la fascisation, donc il y a ces droits-là qui sont complètement genre piétinés pour les personnes trans et non binaires, notamment. Et donc, enfin, il y a un autre level de d'atrocité un peu, enfin de
oui.
Ben, déjà... qui fait peur, voilà.
Oui, déjà, imaginons que Hilaria a été laissée sans moyen de se faire en toilette, sans tampon, quand il avait les règles. Il y a des choses assez graves déjà sur la détention d'Hilaria et le fait que Maya soit non-binaire, c'est évident que par l'État hongrois, c'est pas quelque chose qui est reconnu, qui rentre en compte de l'administration pénitentiaire. Ils n'ont rien à foutre et au contraire, ça constitue un motif de plus de discrimination. et je ne veux pas savoir. Je, voilà,
Et abuser sur les conditions de détention
oui,
par
oui,
ce
oui,
sujet-là.
Non, je veux dire, moi, si, voilà, il faut y penser parce qu'on ne va pas tourner la tête, mais parfois, je veux dire, quand tu y penses, tu t'arrêtes à penser à ce qu'ils sont en train de passer, ces camarades en prison, c'est atroce, quoi. Je veux dire, moi, ça me fait vraiment. C'est pour ça que, par exemple, voilà, nous, on est le comité libéré Gino, parce que là, en ce moment, Gino, il est en prison à Fresnes, il y a la question de l'extradition, etc. Mais dans tous nos banderoles et aussi dans notre débat en interne, on continue à se répéter. Après, Free All Antifase, parce qu'il y a Maya qui est en ce moment en prison, il y a 15, au moins 15 autres personnes qui sont en cavale et qui risquent les mêmes choses. On n'est pas là que pour Gino, quoi. On est là pour tous les antifascistes.
Pour ceux qui sont en cavale, on leur souhaite bonne cavale. Hein.
Bon courage.
Bon courage.
Et derrière, Free All tout court. Hein.
Oui, c'est clair, c'est clair. Oui. Moi, pour exemple, aussi récemment, je réfléchissais à la question des prisonniers politiques en France, par exemple, c'est une question énorme. Là, je veux dire, les Kanaki, George Abdallah, 40 ans de prison, le plus vieux. La question des prisonniers politiques reste énorme.
Après, bon, ici, à la courte échelle, je ne sais pas si prisonnier politique, le sens qu'on y donne. Moi, pour moi, un pauvre qui a essayé de braquer un bourgeois, c'est un prisonnier politique.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin,
il y a un acharnement quand même. Oui. George Abdallah, pour faire un exemple, on voit clairement un truc où la justice s'acharne parce que il y a une question. Oui, c'est vrai que si. Parce que je veux pas créer des hiérarchies là-dedans. Hein.
Non,
je veux pas créer des hiérarchies, mais il y a les prisonniers politiques sont quelqu'un qui sont visés par l'État pour être des ennemis. Des ennemis de l'ordre général. Après, les pauvres aussi, les prolétaires, tous les prolétaires sont. La prison, c'est une institution de classe, quoi, on le voit très bien. Mais
voilà, il y a un peu un continu quoi, du champ de la carcération qui s'élargit. Plus l'État se fascise, plus le champ des personnes qui se retrouvent en prison s'élargit. Les personnes qui subissent le plus d'oppression, les pauvres, les personnes racisées en premier. Et derrière, les militants politiques. Et quand on atteint des seuils où les antifas se retrouvent en tôle, c'est que c'est grave.
Oui, c'est clairement le moment là même où on est en train de vivre, quoi, je veux dire.
Et c'est pas parce qu'on reconnaît que c'est moins pire dans notre pays où il y a des contre-pouvoirs un peu institutionnels, légalistes, que ça, tant mieux qu'ils soient encore là, qu'on perd pas de la boussole et qu'on garde en tête ce que c'est notre objectif au final d'un monde sans tôle, quoi.
Oui, non, ça, on est complètement d'accord.
On est tous d'accord,
c'est pas parce qu'on se mobilise pour une personne en particulier, dans un moment spécifique, qu'on perd dans notre tête. D'ailleurs, pour exemple, Ilaria, je vous racontais tout à l'heure dans nos chats, en dehors de ce moment, qu'en ce moment, Ilaria et Zero Calcare, non, le dessinateur de lequel on parlait tout à l'heure, sont en train de mener une bataille, je dirais, culturelle sur la question de l'abolitionnisme. Parce que, par exemple, en Italie, toute la question de la corruption, Berlusconi, blablabla.
La
mafia, ils ont été construits toutes les législations d'exception qui, après, touchent énormément au milieu militant. Quoi.
Par exemple, le 41 bis, Alfredo Cospito qui s'y retrouve.
Exactement. Mais même la surveillance spéciale, il y a tout un tas de choses qui, soi-disant, ont été créées pour gérer la corruption. Et du coup, il y a un vrai enjeu en ce moment d'ouvrir le débat abolitionniste à partir aussi de ces.
C'est clair.
Moi, les lianes, excusez-moi, parce que là, on dirait qu'on sort de la discussion qu'on tenait, mais je veux dire, voilà, le trait d'union, c'est Ilaria qui a été incarcéré en tant que prisonnier politique, aujourd'hui, qui, voilà, pour être libéré, elle a fait cette choix de se candidater, et après, du coup, elle a été élue députée européenne. Aujourd'hui, le gros combat, c'est ça. Il y a une bataille culturelle du côté italien à mener sur la question de non, la prison pour personne. Non, la prison, c'est une institution de classe. Non, c'est pas parce qu'on déteste le tel politicien. C'est un débat qu'on disait tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, en France aussi, hein, un facho qui est arrêté, et du coup tout le monde qui dit « Ah, c'est trop bien, quoi !» Je dis « Je ne sais pas, on peut en discuter, quoi. » Ou l'autre connard, là, Sarkozy. Je ne sais pas, c'est dangereux quand on commence à réfléchir comme ça, à, en se disant, à gauche, ou voilà.
Ce qui est... Oui, c'est clair.
Voilà.
Bon, bah, je ne sais pas si on a encore des trucs à ajouter sur le sujet.
Peut-être... Peut-être donner, il y a un contact d'une page Instagram.
Ah, oui.
Je crois que ça peut être bien.
Bravo, magnifique.
Mais aussi rappeler les références de la BD après et on pourra vous l'envoyer si jamais.
Alors, du coup, pour garder un œil sur l'affaire Budapest, non, sur la question de Gino, il y a deux pages Instagram. Bon, il y a la page en français qui c'est Libere Gino. Et après, il y a un'autre page en italien qui c'est Free Gino Libero. Sur la BD, on vous dira prochainement. Donc, voilà, on va laisser dans les librairies de Marseille. On va construire toute la campagne. Donc, vous en trouverez dans les librairies indépendantes de Marseille, quoi. L'Hydre, Transit, voilà. On va faire les tours. L'édition française n'est pas encore sortie. Je ne sais pas s'il y a des éditions pirates. Il y a qui avait été traduit, il y avait la première partie qui c'était Au fond du puits, une histoire des nazis, des tôles et des responsabilités, qui avait été traduit et qui super autorisé par Zero Calcare, qui n'a rien à foutre des droits d'auteur, etc., qui nous disent mais si vous voulez faire des copies pirates, faites-les, quoi, si ça aide les campagnes, la campagne pour la libération des camarades, moi je n'ai rien à foutre. Du coup voilà, il y a Au fond du puits qui est déjà publié pirate, et bientôt il sortira cette nuit ne sera pas bref, que c'est un récolte de BD autour de l'affaire Budapest, et on espère aussi organiser une présentation ici à Marseille. On verra si dans des temps utiles pour que ça fasse partie de la campagne pour la libération de Gino.
Après, dans tous les cas, il restera toujours la libération de Maya.
Ça va aller, et etc., etc., etc.
Quoi. On espère qu'il n'y aura pas trop de etc. Mais
oui,
on espère qu'il y ait tous les libérables.
Je parle dans un moment de... Oui. Selon les degrés d'optimisme de chacun, quoi.
Voilà, il y a, comme on disait, à Paris, le 18, à La Parole Errante, à vers Montreuil, un événement de soutien, je crois, qui est l'après-midi.
Et aussi, bien sûr, on vous fera passer les agendas s'il y a d'autres trucs qui se font à Marseille, des soirées de soutien et tout.
On attend déjà de voir la prochaine audience, le 15. Et tout de suite après le 15, on aura une réunion où on essaiera de faire un peu un calendrier de prochaines initiatives. Aussi, par rapport à la date de la prochaine audience, on ne sait pas encore. On espère qu'il y a une prochaine audience. Entre-temps, je n'ai pas dit ça, Gino, malheureusement, il reste en tôle, dans le sens qu'il reste à Fresnes, parce qu'il avait été demandé son assignation à domicile, mais ça a été refusé parce qu'il considère qu'il y a un danger de fuite. Et voilà, du coup, d'un côté, il y a le fait que si le procès il dure plus longtemps, c'est bon signe, parce que ça veut dire que la défense a le temps d'argumenter les raisons pour lesquelles son extradition ait lieu. Mais en même temps, jusqu'à là, Gino reste en tôle. Après la dernière audience, si on peut terminer sur une note pas positive, mais voilà, la dernière audience, Gino était là, il était souriant, il était fort. Il avait sa famille, ses amis dans la salle de l'audience, et du coup aujourd'hui on garde cet esprit là
en tête
dans le cœur. Je veux dire, Gino est fort, à nous de travailler au max pour le libérer, quoi.
En tout cas, tenez-nous au courant, et bien comme sûr. Ça des événements à suivre après ce jugement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on vous laissera encore la possibilité de nous dire et de vous soutenir également. Voilà, force et courage à lui, en tout cas. Vous pourrez y dire de notre part, de toute l'équipe de la courte échelle.
Force à toi, Gino.
Voilà, force, courage.
Ah, mince. On espère que tu pourras entendre ces messages une fois que tu seras dehors.
Un dernier chose, j'ai oublié une chose très importante, quoi. Que c'est de donner aussi son adresse. Si quelqu'un veut lui écrire, donnez-moi un seconde que je retrouve l'adresse.
Bah, et du coup, force à Maya aussi.
C'est
ça. Gros big up à toi. Gros big up à toutes les personnes en cavale aussi. La cavale, en vrai, c'est pas facile non plus. Donc, force à vous.
En tout cas, si vous voulez réagir sur ce collectif de soutien à Gino, vous pouvez également écrire à la courte échelle, à la radio Friche Label de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et si vous voulez en savoir plus après le jugement, ce soutien-là, le soutien collectif qui est là avec nous ce soir, il sera de nouveau bienvenu pour nous le dire également. Et il va nous dire une adresse si on veut lui donner.
Oui.
Ah, ça c'est intéressant.
Vous voulez le lire à vous autant c'est...
En français.
Oui, en français, oui, pas avec mon accent. Quoi.
Alors, c'est Monsieur Abazar. Abazar, donc A-B-A-Z-A. Et Rixino, c'est ça si. Rixino. R-I-X-H-I-N-O. Alors, je dis bien l'adresse de la prison maintenant. Hein, c'est comme, presque comme la France. M-A-H.
Maison d'arrêt pour hommes.
Voilà, ça veut dire maison d'arrêt pour hommes. Bâtiment, ça doit être DE-229, écrou de monsieur, et 10-33-475, centre de pénitentiaire de Fresnes, les allées des Thuyans, T-H-U-Y-A-S, 81. 14-260 Fresnes. Voilà.
Je précise, c'est A-B-A-Z-A-J.
Ah, pardon. Désolé. En tout cas, si vous voulez écrire, nous également, vous pouvez envoyer le courrier à la radio, donc 12 nous, rue Friche de la Belle de Mai, et vous pouvez envoyer des courriers comme on pourra suivre, effectivement. Aux détenus à Gino et à l'association, comme ça tout le monde saura qu'on est là pour ce soutien-là également, comme la radio est là pour tout, et prisonniers, prisonnières de tout le monde, que ce soit en France, à l'étranger. Voilà, c'est la courte échelle.
On est bon.
Oui, et juste pour dire, peut-être on se retrouve pas la semaine prochaine, mais le 26, parce qu'il y a un changement de table de mixage. Ouais, merci beaucoup d'être venu ce soir. Plein de force aux camarades et à toutes les personnes à l'intérieur.
En tout cas, n'hésitez pas, le soutien de revenir à la radio. Et
merci à vous.
Et en tout cas, une petite musique peut-être, Louise.
Oui, ouais. Grave.
Donc, on va mettre la petite musique et on vous dit, nous, pas la semaine prochaine, mais dans... la semaine après, et on vous souhaite en attendant courage, force,
détermination et
courage, et ne baissez pas les bras, et comme le soutien collectif, battez-vous, montrez, dites, dénoncez, plus on est, plus on sera fort contre ces fascistes, et comme on dit chez nous, dans la radio, crève la tôle et les matins au milieu, ça c'est notre devise chez nous. Donc pour les Tchadis, ça sera pareil. Voilà, crève la tôle et les matins au milieu, et
on
tous les prisonniers et prisonnières à liberté.
On se laisse sur Los Fastidios de Antifa Hooligans.
Bonne soirée à tous.
Ciao, ciao.
Et merci l'équipe.
Ciao.
Merci au soutien. Bonne ciao. Soirée.
Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, Antifa! Come on, Antifa.